Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons nos nouvelles du ciel avec Denis. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Du système solaire dans sa généralité peut-être ?
Exactement, dans sa généralité, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur notre système solaire qu'on n'aura pas le temps donc, de tout traiter.
Oui, c'est pour ça qu'on fait ça en plusieurs émissions. On détaillera dans beaucoup d'émissions tout ce qui nous passe et peut-être même pourquoi ne pas inviter les auditeurs à nous poser des questions auxquelles vous pourriez répondre dans des prochaines émissions, pourquoi pas ?
Ah oui, tout à fait, ce sera avec grand plaisir de pouvoir répondre à leurs questions.
Moi j'en ai une de question, les planètes, bon c'est vrai qu'on voit des étoiles, alors moi je confonds bien sûr étoiles et planètes, on voit bien qu'il y en a des grosses, des plus petites. Est-ce que c'est l'éloignement ? Est-ce qu'elles ont toutes la même dimension ou pas ?
Alors, c'est une très bonne question. Toutes les planètes, en effet, n'ont pas du tout la même dimension. Et puis, il y a le critère distance qui impacte, bien entendu, sur le diamètre apparent de la planète, voire de l'étoile.
Oui. Est-ce que les plus près de la Terre, c'est-à-dire les plus grosses que l'on voit, est-ce qu'on peut les regarder tout simplement à la jumelle ?
Tout à fait. Hein. Il s'agit de bien redéfinir ce qu'est une planète. Hein. Une planète, oui. C'est un corps qui est mort, qui ne fait que réfléchir la lumière du Soleil, d'une étoile donc, qui est située dans l'environnement. Tandis que donc, le Soleil hein, est un corps qui vit par sa propre lumière. Concernant les planètes, en effet, on peut en observer facilement à l'œil nu, pour commencer. Hein. On voit bien entendu les planètes les plus lumineuses. Donc on voit les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Hein. Depuis la nuit des temps, on peut voir, je dirais, ces planètes à l'œil nu.
Oui.
Par contre, au-delà de l'orbite de Saturne, eh bien, on a d'autres planètes qui existent, mais leur éclat apparent est tellement faible que là, il s'agit bien entendu d'utiliser un instrument, une paire de jumelles, mais là, c'est recommandé plutôt d'utiliser un télescope.
Je comprends. Quand vous dites planète morte, est-ce que la Terre est une planète morte ?
La planète est une planète morte. On distingue deux catégories de planètes. On a les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, hein, qui ont des structures solides. Et puis on a un autre groupe qu'on appelle le groupe des planètes supérieures, gazeuses, tels que Jupiter et Saturne. Et vous avez en plus les planètes Uranus et Neptune qui sont des planètes qui sont entre guillemets gelées. Voilà.
D'accord. Est-ce que toutes ces planètes ont une atmosphère ? Puisque la Terre, on respire, on a de l'air.
Toutes les planètes ne possèdent pas une atmosphère. Hein. Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, ne possède pas d'atmosphère. Mmh. Vénus, la Terre, possède des atmosphères. Également, les planètes joviennes, telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, possèdent oui. également une atmosphère.
Donc, on pourrait y vivre ou pas ? Ou ce sont des atmosphères particulières ?
Non, ce sont des atmosphères particulières. Toutes les conditions ne sont pas réunies sur ces planètes pour que la vie puisse s'y développer. Maintenant, il s'agit de redéfinir ce qu'est la vie,
oui.
exactement.
Vous avez parlé de planètes gelées, est-ce que c'est de l'eau qui est gelée ? Auquel cas, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une atmosphère avec de l'air.
Alors, concernant les planètes joviennes, hein, c'est-à-dire les grosses planètes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont constituées d'atmosphères organiques pour Neptune et Uranus, hein, c'est du méthane, de l'ammoniac qui se trouve à l'état de congélation, entre
oui.
guillemets, tandis que les planètes Jupiter et Saturne sont constituées essentiellement d'hydrogène, de gaz hydrogène et d'hélium. C'est-à-dire que quand vous dépassez une distance de 5 unités astronomiques du Soleil, alors je rappelle que l'unité astronomique, c'est la distance étalon Terre-Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Donc si vous faites 150 millions de kilomètres multipliés par 5, eh bien vous arrivez à ce qu'on appelle la ligne de glace. C'est-à-dire que quand vous franchissez cette distance, eh bien les corps se trouvent à l'état de congélation.
D'accord.
Si je peux résumer.
Oui. Est-ce que toutes les planètes ont ou sont des satellites comme notre Lune à nous ?
Les planètes, bon, bien sûr, sont satellites de notre étoile Soleil, hein, parce que je rappelle que Le Soleil est quand même le chef d'orchestre de notre système solaire. Hein, l'ensemble de ce système fait partie d'un immense amas d'étoiles qu'on appelle une galaxie,
oui,
qui s'appelle la Voie lactée, et qui est constituée de 200 milliards d'étoiles.
Il y a de quoi faire.
À peu près. Bien sûr, le système solaire est situé à peu près 26 000 années-lumière donc, du centre de notre galaxie. Hein, donc 26 000 années-lumière, je vous rappelle qu'une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres, donc des distances à donner le vertige, hein, donc vous faites 26 000 multiplié par 10 000 milliards de kilomètres et vous avez la distance entre notre système solaire et le centre de la galaxie. Et notre système solaire justement fait partie d'une bulle, une bulle locale interstellaire qui est située à grosso modo à 26 000 années-lumière du centre, sur un bras, hein, parce que notre galaxie est représentée comme un système avec des spirales. Chaque spirale correspond à un bras. Et le bras dans lequel est situé notre système solaire, on l'appelle le bras d'Orion, qui est situé entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire. Et donc cette bulle locale interstellaire, ça, si on pouvait la représenter, ça serait en quelque sorte un sablier avec deux lobes, qui a un lobe dans lequel est situé notre système solaire, et dans l'autre lobe, eh bien, il y a une autre étoile, qui est l'étoile Beta Canis Major. C'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. C'est une petite idée de où est situé notre système solaire. Ensuite, notre Soleil est entouré d'un cortège planétaire. Hein. On pourrait, entre guillemets, appeler ça les lunes du Soleil, hein, pourquoi pas. Et les planètes du système solaire, toutes ne possèdent pas de satellites, de lunes. Hein. Si je prends l'exemple de Mercure et de Vénus, eh bien, ces deux planètes qui sont les plus proches du Soleil ne possèdent pas de satellites de lunes naturelles. Par contre, la Terre possède un satellite naturel que vous connaissez très bien, c'est la Lune. Et puis, vous avez les autres planètes, telles que Mars, qui possède deux satellites, Phobos et Deimos, hein, qui gravitent, hein, ce sont des petites lunes, hein, qui gravitent autour. Oui. Ben là, on arrive à une grande barrière qui est une ceinture de cailloux, hein, d'astéroïdes. Et au-delà, ben, vous avez donc les planètes donc jovienne, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui possèdent également des satellites. Jupiter, qui vient après Mars, possède 79 satellites, 79 lunes, des satellites naturels, hein, ce qui est quand même assez remarquable. Mais ce n'est pas tout, la planète qui suit, Saturne, hein, la fameuse planète aux anneaux, en posséderait 200 lunes qui graviteraient donc autour de Saturne.
Si jamais il y en a une qui déraille.
C'est quand même remarquable.
Oui.
La totalité de ces lunes n'ont pas été encore clairement identifiées.
Oui.
Mais les études qui ont été menées jusqu'à présent, hein, les observations ont démontré que pouvait exister au moins 200 lunes donc autour de Saturne. Et puis vous avez les planètes comme Neptune et Uranus qui possèdent également aussi des satellites.
Et sur ces satellites, il n'y a pas de vie non plus.
Il n'y a pas de vie non plus.
Est-ce qu'il est possible de trouver une planète dans tous ces systèmes, puisque vous dites qu'il y a plusieurs systèmes solaires, de la vie ?
là aussi, ça dépend comment on définit la vie.
Voilà. En effet.
Est-ce que c'est une vie sous la forme d'un être humain comme nous autres ? Est-ce que c'est sous la forme et à l'échelle bactérienne ? Là, il s'agit de bien définir ce qu'est la vie.
Oui.
Alors, la vie à l'état microscopique, à la limite, pourquoi pas ?
Mm-hmm.
Pourquoi pas ? Mais, encore une fois, il faut que toutes les conditions soient réunies.
Oui.
Pour qu'il y ait tout cet assemblage moléculaire de chimie organique qui puisse générer justement cette fameuse vie, parce que la vie, bien sûr, repose sur la biochimie, sur la chimie organique.
Oui, on en entend encore parler de ces ovnis. Est-ce qu'il y a eu des cas où on peut dire oui, c'est un cas qu'on ne peut pas identifier ?
Oui, tout à fait. Bon, il y a des études qui ont été menées, notamment par des bureaux d'études spécialisés sur tout le domaine des objets volants non identifiés. Hein, vous avez par exemple à Toulouse, hein, au CNES, une unité spéciale justement qui est destinée à étudier justement ces phénomènes-là.
Oui.
Maintenant, est-ce qu'il s'agit de prendre très au sérieux cette question-là ? Pourquoi pas ? Maintenant, après, je laisse l'appréciation à chacun de penser ce qu'il veut.
Revenons à nos planètes, c'est le cas de le dire. Vous nous l'avez dit plusieurs fois, Saturne a des anneaux. Est-ce qu'il y a d'autres planètes ou est-ce que toutes les planètes ont des anneaux ? Est-ce que nous, la Terre, nous avons nos anneaux ou notre anneau ?
Toutes les planètes ne possèdent pas d'anneaux. Hein. Les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ne possèdent pas d'anneaux. Les planètes qui possèdent des anneaux sont les planètes joviennes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Hein. Ce sont les plus grosses planètes du système solaire qui en possèdent, et qui en possèdent voire plusieurs. Parce que quand on parle d'anneaux, c'est plus exactement d'un système d'anneaux. Hein, c'est-à-dire que vous avez plusieurs rangées d'anneaux. Alors, ce qu'on appelle des anneaux, ce sont un assemblage de cailloux, de glace qui sont dissociés et qui gravitent autour de la planète. Si on les voit sous forme d'anneaux, c'est à cause, bien sûr, de la distance. Hein. Si
oui.
vous prenez, par exemple, deux pommes distantes l'une de l'autre de 10 cm, et si vous les placez à 10 cm de vous, eh bien, vous les verrez séparés, les deux pommes. Maintenant, si vous les placez à 1 km, les deux pommes, eh bien, vous aurez l'impression que ces deux pommes eh bien, se touchent. C'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir séparateur de l'œil, l'œil qui est plus ou moins capable de pouvoir séparer donc deux objets extrêmement proches en fonction de la distance.
Oui, donc ce ne sont pas des anneaux plats qui encercleraient la planète.
Voilà, exactement. Ce sont des blocs rocheux de glace qui sont dissociés. Alors, il y en existe des milliers et qui gravitent autour des planètes principales.
Oui, et ils sont dans le sens où on les voit sur les images ou sur les photos que vous faites, ou est-ce que c'est tout autour une espèce de cloche qui se fait autour de la planète ?
Ce n'est pas du tout une cloche. Hein. Les anneaux gravitent dans un plan.
Ah d'accord, voilà.
Hein, dans un plan. En fonction de la configuration de la planète, ce plan sera... plus ou moins incliné.
Mmh. Est-ce que les planètes ont un nord et un sud comme nous ?
Oui, tout à fait. Il y a un pôle géographique, un pôle nord géographique et un pôle sud géographique, mais également magnétique.
D'accord.
Voilà. Même on peut assister à des aurores, des orages magnétiques ou des aurores, hein, des aurores boréales sur certaines planètes, comme sur Saturne, par exemple.
Mmh.
Parce que vous avez donc les particules électrisées provenant du Soleil hein, qui rentrent en interaction avec les champs magnétiques des planètes et qui génèrent justement donc ces fameuses aurores boréales.
Mais voilà, on en sait un petit peu plus. On va passer maintenant à ce qui est plus proche, si j'ose dire, avec l'Observatoire des étoiles à la Trappe, puisque là, on pourra voir pour le mois de septembre Mercure et Mars. Vous nous dites tout ?
Oui, au petit matin, direction est, donc ça sera juste avant le lever du soleil. Si vous voyez une petite étoile brillante, eh bien, il s'agira de Mercure. qui pourraient être visibles là avec une paire de jumelles à l'œil nu ou avec des petits instruments.
Oui, Mercure est loin de la Terre ?
Ça aussi, ça dépend de sa position par rapport au Soleil et puis par rapport à la Terre. Sachant que Mercure est une planète qui est située à peu près 60 millions de kilomètres du Soleil. Et je vous rappelle que la Terre, elle est située à 150 millions de kilomètres. Donc, oui. Si on part du principe que Mercure, le Soleil et la Terre sont alignés et que Mercure est situé entre le Soleil et la Terre, eh bien, il suffit tout simplement de faire une soustraction et là, vous connaîtrez la distance.
D'accord. Donc ça sera visible tout le mois de septembre. Mars ?
Mars est visible le soir, plein sud, l'horizon sud. Là, si vous voyez une petite planète, une petite étoile rougeâtre, eh bien, donc il s'agit de Mars qui est toujours visible en ce moment. Mm-hmm. Mars qui était au plus proche de la Terre il y a quelques jours. Voilà.
Oui, et les autres, Vénus, tout ça, c'est toujours visible ?
Ça sera visible, mais aussi dans des conditions particulières, hein, parce que Vénus a tendance à se coucher très tôt, oui. Après le coucher du Soleil. Donc, bien. Ça sera beaucoup moins évident.
Oui, elle reviendra aux alentours du mois de décembre, après, on la reverra.
Oui, on la reverra, ne vous inquiétez pas.
Très bien. Les activités qu'il y a aux Pléiades ?
Alors, les activités aux Pléiades, le 7 septembre... un spectacle musical en accord avec l'astronomie, le ciel. Ça sera donc à 21h. Auparavant, à 19h45, également une auberge espagnole qui sera organisée au foyer donc, de l'association donc, de l'Observatoire des Pléiades. Et juste avant, eh bien, vous avez donc, le marché des producteurs bio de la Trappe. Qui vendront donc des produits donc sur place.
Oui, voilà. Donc là, vous couplez la soirée avec les vendredis de la Trappe, hein, c'est l'association.
Voilà, c'est ça, oui.
Très bien.
Exactement.
Plus tard, le 22 d'ailleurs et le 23 septembre, ce sera un week-end d'escapade.
Voilà, tout à fait. Le week-end escapade, c'est un week-end consacré à l'astronomie. Il y aura possibilité donc de pouvoir manger sur place et d'utiliser les instruments de l'observatoire.
Oui.
Et il y a également donc des astro-repas qui sont organisés sur réservation.
Oui. Alors justement, on en vient presque à la fin. Le site.
Alors, le site des Pléiades, c'est www.les-pléiades.asso.fr. Donc, c'est une adresse un petit peu compliquée.
Mais
donc,
si on fait les Pléiades, on
si
y
vous faites, si vous tapez les Pléiades donc, sur le moteur de recherche de Google, par exemple, eh bien, là, vous n'aurez aucun souci.
Exactement.
Vous aurez tout le programme détaillé.
Et pour vous joindre par téléphone ?
Alors, ça sera le 05 62 23 21 13. 05 62 23 21 13.
Finalement, vous fonctionnez toute l'année.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a des cours, des stages qui sont donnés. On accueille bien sûr des groupes scolaires des quatre coins de France. Il y a des capacités d'accueil et d'hébergement pour plus de 50 personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. Donc il y a différents types de stages à des niveaux différents. Donc ça va du simple néophyte à l'éducateur spécialisé dans l'astronomie.
Et bien voilà Denis, nous avons fait le tour du ciel. On se retrouvera le mois prochain et là, le mois prochain, bien sûr, on continuera de parler de ce fameux ciel qui fascine tellement les hommes.
Eh bien, ça sera avec grand plaisir.
À bientôt.
Oui, merci à tous et à toutes.